Bienvenue dans Les Résilientes, le podcast qui réchauffe le cœur et éveille l'espoir. Ici Caroline Lepeinteur du blog Ma Belle Santé. Expondi Warrior, je suis naturopathe, coach et je vous accompagne au travers de ce podcast dans l'univers de la résilience. Que ce soit lors d'échanges inspirants avec des guerrières ou d'exploration de thèmes essentiels en solo. Car ici, dans Les Résilientes, nous croyons à la capacité de chacune à trouver la lumière au bout du tunnel, à prendre en main sa santé de manière naturelle et à se réinventer malgré la maladie. Préparez-vous à être inspirée, à ressortir plein d'élan, de positivité et à puiser dans votre propre force intérieure pour devenir plus forte que la maladie. Bienvenue dans un nouvel épisode des Résilientes, le podcast qui célèbre la force intérieure et la résilience des femmes inspirantes qui ont relevé des défis de santé. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'accueillir une artiste, une auteure, une guerrière qui a su transformer son combat contre la maladie en une source d'inspiration pour nous toutes. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Stomy Buzzy sur les réseaux sociaux et elle partage son incroyable parcours à travers sa bande dessinée « Ma crône de vie » publiée chez les éditions Le Duc. Son approche unique et sincère de la maladie de Crohn va au-delà de l'humour pour toucher le cœur de ce sujet souvent tabou. Avec autodérision et courage, elle nous livre un témoignage essentiel sur la maladie, la stomie et la manière dont cela a transformé sa vie. Donc aujourd'hui, nous avons le privilège de plonger dans son histoire, de découvrir sa résilience face aux défis et d'apprendre comment elle a trouvé la force de continuer à vivre, à aimer et à être heureuse malgré tout. Donc sans plus attendre, je vous présente Juliette, une véritable source d'inspiration et une résiliente extraordinaire. Juliette, bienvenue dans Les Résilientes.
Merci beaucoup. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec toi.
Et moi aussi. Alors écoute, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît ?
Oui, alors je m'appelle Juliette Mercier. Je suis illustratrice et autrice de bande dessinée. J'ai notamment écrit mon premier roman graphique chez les éditions Le Duc en 2021, qui s'appelle « Ma crône de vie », comme tu en parlais, et qui va en fait retracer mon parcours de patient, puisque quand j'ai eu 15 ans, j'ai été touchée par la maladie de Crohn, et j'ai eu un parcours un petit peu compliqué jusqu'à mes 28 ans, où là, j'ai été opérée d'une stomie, et depuis donc 6 ans aujourd'hui, je suis en rémission, et donc je parle un petit peu de mon quotidien et de mon expérience de patient sur les réseaux, avec humour, pour dédramatiser et aussi pour sensibiliser.
Oui, c'est très inspirant et très touchant ce que tu partages sur tes réseaux et même dans tes BD. Merci en tout cas pour ça. Comment ça s'est passé pour toi, les prémices de la maladie ?
Alors, les premiers symptômes, en fait, donc moi, j'avais 15 ans, adolescente, j'ai commencé par avoir des diarrhées le matin et des douleurs au ventre. Ça s'apparentait un petit peu, si on peut comparer, à une gastro-entérite, puisque mon médecin généraliste que j'ai consulté à ce moment-là a pensé d'abord à une gastro, puisque c'était la période, ça correspondait bien. Et puis, finalement, au fur et à mesure des rendez-vous, comme ça ne s'arrangeait pas, là, on a soupçonné quelque chose de plus grave. Mais ça a commencé quand même en douceur, voilà, avec des douleurs plutôt matinales. Et après, le reste de la journée, ça allait. Je pouvais quand même aller au lycée, etc.
Oui, donc ça a commencé très, très tôt pour toi.
Ça a commencé très jeune. Oui, après, c'est une maladie qui se développe pas mal entre 15 et 25 ans. Donc voilà, c'est l'âge un petit peu. Certains l'ont plus tôt, certains l'ont plus tard. Il y a des diagnostics plus ou moins faciles. Mais en tout cas, moi, j'arrivais au lycée, en fait, quand j'ai commencé à avoir cette maladie.
Et comment s'est passé, justement, ton diagnostic ? Parce que là, quelque part, tu as été un peu dans une errance médicale pendant assez longtemps.
Alors moi, on ne peut pas dire que j'ai vraiment connu l'errance médicale, j'ai connu plutôt un diagnostic normal, puisque en 6 mois, j'avais le diagnostic. Alors ça peut paraître un petit peu long, effectivement, mais finalement, pour des maladies comme ça, il faut faire des examens, il faut faire des prises de sang, il faut faire notamment une coloscopie. Et moi, c'est cette coloscopie qui a mis en évidence la maladie. Et j'ai eu la chance que ce soit clair à la coloscopie, parce que c'est pas toujours le cas. Mais voilà, le temps de soupçonner la maladie, de consulter son médecin généraliste qui va t'orienter vers des spécialistes, il y a quand même toujours un petit laps de temps. Et 6 mois pour un diagnostic, c'est quand même assez rapide.
Oui, ça va par rapport à d'autres personnes qui ont des maladies inflammatoires chroniques. Moi, par exemple, ça a mis quand même 2 ans pour qu'on
Ah
puisse me diagnostiquer ma maladie. Donc oui, 6 mois, ça va encore. Mais c'est vrai que
oui.
depuis toute jeune, tu as quand même des symptômes, tu as un terreau quand même au niveau du système digestif assez fragile.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, il y a un terrain qui se prépare petit à petit. Donc, ça a commencé en douceur assez rapidement. Et puis, le problème, c'est que ça s'est étalé et que tout ça a empiré assez vite. En fait, moi, j'ai une maladie chronique mais progressive qui n'a jamais eu de moment de pause. Hein. Parfois, on peut être malade avec la maladie de Crohn pendant 6 mois et puis ça va pendant 6 mois ou pendant 2 mois, 1 mois. Voilà, ça. Les périodes entre ça va ou ça va pas, ça s'alterne. Alors que moi, en fait, j'ai une maladie qui n'a fait que progresser et qui ne s'est jamais endormie pendant 13 ans à peu près, quoi.
C'était vraiment dans ton quotidien.
C'est ça, oui, c'était tous les jours. Donc, au début, on a tâtonné un peu avec les traitements. Donc, j'ai quand même eu un traitement qui a fonctionné pendant 1 an et demi à peu près, ce qui m'a permis de passer une terminale tranquille, de passer mon bac en paix. Et puis après, les symptômes sont revenus. Et là, ça a été plutôt une errance au niveau des traitements, puisque tous les traitements que j'ai essayés n'ont pas fonctionné sur moi. Donc voilà, c'est pas le cas pour tout le monde. Et moi, j'avais un Crohn agressif qui faisait que donc les traitements médicamenteux ne correspondaient pas à mon cas et n'amélioraient pas mes symptômes.
Dans ta famille, tu es la seule à avoir ce type de maladie?
Oui, ouais, je suis la seule à avoir cette maladie. Après, dans ma famille, il y a un peu de psoriasis, par exemple. Il paraît que ce sont des maladies un petit peu cousines, même si c'est très différent. Voilà, c'est un système immunitaire qui s'attaque à lui-même. C'est aussi une maladie qui empire avec le stress, etc. Donc, mais pas de maladie de Crohn dans ma famille, en tout cas.
D'accord. Et comment tu as réagi au diagnostic? Parce que tu étais quand même en pleine, on va dire, période d'adolescence. Donc, c'était une période quand même où on prend un véritable, je dirais, essor dans plein, plein de choses, où on est dans une réelle transformation de soi. Toi, comment tu as vécu justement ce diagnostic?
Eh ben alors moi justement j'ai eu la chance d'avoir ce diagnostic à ce moment-là où j'avais cette innocence qui m'a permis de bien prendre les choses. C'est-à-dire que moi je connaissais pas le monde de la maladie et pour moi être malade ça voulait dire forcément être soigné. Donc quand on m'a annoncé que j'avais la maladie de Crohn, je me suis dit bon ben très bien, je vais prendre des médicaments et dans 2 semaines c'est réglé, je serai totalement guérie de la maladie. J'avais vraiment pas la notion de ce que peut être une maladie chronique. De l'impact que ça peut avoir au quotidien et de la durée aussi, et aussi du fait que la maladie de Crohn ne se guérit pas. Ça, tout ça, j'avais pas compris. Donc, moi, j'avais vraiment ce petit détail qui faisait que bon, j'étais malade et c'était compliqué, mais tout le reste de ma vie m'intéressait beaucoup plus. Donc, finalement, j'étais focalisée sur le lycée, sur les amis, sur le sport, sur ce que j'aimais. Et ouais, voilà, c'est un. Je pense que c'est l'innocence qui a rattrapé un petit peu cette mauvaise nouvelle, quoi.
Oui, tu as eu vraiment, on va dire, ce point de vue quand même assez, oui, comme tu dis, innocent pour ne pas tomber dans justement quelque chose de très triste. T'as pas eu beaucoup de. En fait, quand tu as eu le diagnostic, tu n'as pas été dans la tristesse, la colère, la culpabilité, toutes ces choses qui est généralement quand on a un diagnostic qui est là, on tombe dans une cascade d'émotions très, très inconfortable. Hein.
Ouais, c'est vrai que oui, moi je pense que j'avais voilà une certaine naïveté qui faisait que toutes ces émotions-là sont venues plus tard hein, parce que forcément les questions arrivent, la colère, la frustration, tout ça s'installe à force de symptômes, à force de maladies. Mais sur le coup, j'ai eu la chance de pas mal le vivre, contrairement à peut-être si c'est un diagnostic un peu plus tard ou si tu connais la maladie, si tu as un peu plus la notion. Oui, moi j'étais dans la lune, quoi, un petit peu, quoi. J'étais comme déconnectée de ce monde-là, en fait.
Ouais, c'est intéressant. Et donc, comment est venue justement la décision de subir cette opération de stomie?
Bah alors, du coup, c'est pas un choix, voilà. Donc, c'est venu au fur et à mesure du temps. C'est vrai que moi, donc, ma maladie s'est beaucoup installée a empiré, comme je te disais, malgré les traitements, malgré les médecines alternatives, les régimes et tout ce que je pouvais mettre en place pour que ça aille mieux, ça ne fonctionnait pas. Donc ça a été une descente aux enfers et finalement, j'en suis arrivée à un point où je pesais 37 kilos pour 1,69 m. Donc j'étais très dénutrie, j'étais très maigre, fatiguée. J'avais à peu près 20 diarrhées par jour, avec des douleurs toute la journée. Donc j'avais aussi du mal à manger, etc. Et donc c'est mon médecin généraliste qui m'a envoyée à l'hôpital pour me faire soigner et bénéficier surtout de la nutrition artificielle. C'est-à-dire qu'on te nourrit avec une sonde qui va directement à l'estomac et une poche de nutrition, voilà, qui t'apporte un peu d'énergie et ce qu'il faut pour se requinquer. Et là, on a fait un examen, donc une nouvelle coloscopie qui a révélé que l'état de mes intestins était trop catastrophique et qu'en fait, c'était irrattrapable. Vu que ça faisait 13 ans qu'on essayait des traitements, qu'on tentait plein de choses et que ça n'avait aucun impact, il semblait que la dernière solution, puisque mon pronostic vital était engagé, c'était l'iléostomie définitive. Donc voilà, ça a été un peu un choc, une surprise. Et je n'allais pas à l'hôpital pour ça à la base. Et on me l'a annoncé 3 jours après mon hospitalisation que ça allait être une obligation, quoi.
Et comment tu l'as vécu ça? Parce que tu t'y attendais pas. Donc émotionnellement, comment
Oui.
tu t'es sentie?
Bah là, pour le coup, j'ai 28 ans. J'ai déjà entendu parler de la poche. J'ai l'expérience de la maladie, donc je connais beaucoup mieux le sujet. Et donc, je le vis mal. En fait, cette nouvelle, je l'accueille avec colère. Je veux pas de stomie. Hein. Je suis pas d'accord avec cette décision. Je suis pas d'accord, mais je sais que j'ai pas le choix en même temps. Donc, tu veux pas, mais t'avances quand même vers l'opération. Hein. C'est obligatoire parce que tu veux vivre aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on t'annonce quand même pronostic vital engagé. Là, tu te dis, OK, bon, c'est très grave. Je vais le faire parce que j'ai envie de vivre et parce que j'ai encore rien fait de ma vie, parce que j'ai que 28 ans et que tout est devant moi, quoi. Mais d'un autre côté, c'est beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de culpabilisation aussi. Voilà, un mélange de plein d'émotions négatives finalement qui te tombent dessus.
Oui, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas la stomie, c'est une sacrée intervention parce que on retire en fait la partie malade de l'intestin et on recoud la partie saine sur l'abdomen. Donc en fait, le transit est dévié et une poche recueille les selles. C'est bien ça, hein,
C'est
Juliette?
ça.
Ouais.
Oui, très bien expliqué.
Et du coup, comment ça a été les débuts avec donc t'as subi l'opération. Comment ça s'est passé les débuts avec cette stomie?
Alors, donc j'ai subi l'opération, mais c'est vrai que je suis dans un état catastrophique et que pour remonter la pente, il faut quand même du temps. Donc, on me garde à l'hôpital et j'ai l'avantage de ne... Enfin, j'ai l'avantage. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais la stomie, je la vois pas tout de suite parce que j'ai tellement d'autres problèmes à côté et de complications que finalement, la stomie, ça passe en second plan. Donc, au tout début, vraiment, c'est plutôt je m'accroche à ma vie, j'essaie d'aller mieux, j'essaie de m'en sortir parce que j'ai l'impression que je suis pas encore sortie d'affaire. J'ai des hémorragies, j'ai un virus, c'est très douloureux, j'ai une stomie, un intestin qui est tordu. Enfin, j'ai plein de choses qui arrivent, en fait. Et qui font que finalement la stomie va passer vraiment en dernier plan et que donc je la découvre finalement 1 mois après l'opération. Au bout d'un moment, donc 1 mois après l'opération, je peux me lever et donc avec l'infirmière stomathérapeute, elle m'accompagne dans la salle de bain pour que j'apprenne à changer ma poche toute seule, puisque l'idée c'est vraiment d'être autonome dans ces soins-là à la maison avant de rentrer. Et là, je me découvre dans le miroir et en fait, je découvre une autre personne que je connaissais pas. Et je suis choquée parce que, en fait, je vois quelqu'un de malade. Et c'est bizarre parce que j'ai été malade pendant des années, mais en fait, je l'avais pas vu. Moi, j'avançais, je sais pas, un mental qui faisait que j'écoutais pas mon corps, je le voyais pas non plus. Et là, je découvre que je suis très maigre, que j'ai une poche, que je suis grise, que je suis fatiguée. Enfin, vraiment, je me dis, mais qui est cette personne? Et je m'écroule un petit peu parce que je me sens vraiment au fond du seau, je me sens tout en bas de la pente et j'avais pas remarqué en fait avant ce jour-là que ça allait si mal. Donc à partir de là, il va falloir remonter la pente et voilà. C'est aussi se prendre, je pense, prendre conscience qu'il y a un problème pour le régler. c'est quand même aussi la base. Et donc, à partir du moment où je vois cette stomie dans le miroir, bon, je m'effondre, hein, je suis horrifiée. Mais d'un autre côté, je sais que moi, j'ai envie de vivre et que tout ça va falloir le gérer, se soigner, prendre soin de soi et apprendre à gérer et à s'adapter avec.
Oui, cette stomie, en fait, t'as créé une belle résilience quelque part.
Oui, c'est ça, parce que finalement, ça m'a remis un petit peu l'ordre des priorités. Enfin, ça m'a remis les priorités dans le bon ordre plutôt, parce que avant j'avançais pour le travail beaucoup, pour enfin bon, comme on est tous noyés dans la vie en fait. Hein, je pense que c'est pas forcément malade pour connaître ça. Hein, et finalement de voir cette stomie et de voir que je suis passée à côté, je me suis dit mais elle m'a sauvé la vie. Elle va peut-être me rendre ma liberté, mon confort de vie, et donc j'avance avec elle parce que c'est un outil de guérison. Et peu importe la définition que j'avais de la féminité, peu importe les idéaux que j'avais avant, maintenant en fait il faut faire comme je peux, faut faire avec ce que j'ai, et puis voilà, l'idée c'est d'adapter. Et je pensais pas que ce serait aussi bien à ce moment-là, mais voilà, j'ai envie quand même d'être autonome et de vivre, donc c'est pour ça que je me bats.
Donc là, tu sors au bout de combien de temps de l'hôpital?
J'ai fait 1 mois et demi à l'hôpital, je suis rentrée chez moi et je suis repartie 2 semaines. Donc, j'ai fait à peu près 2 mois
D'accord.
à l'hôpital.
Et donc, quel est ton quotidien une fois que tu es rentrée chez toi? Quel est ton quotidien avec la stomie?
Alors, je rentre chez moi avec des soins quand même, avec une sonde dans le nez pour continuer en fait à me nourrir un petit peu. Et je rentre chez mes parents, donc c'est le mois de juin. Il fait beau, donc c'est quand même sympa, ça c'est pour le moral, ça aide toujours. Et puis l'objectif, voilà, c'est d'apprendre à gérer ma stomie. Donc je commence à la changer toute seule, la poche à la maison. Je mange beaucoup parce que pendant la maladie de Crohn, j'ai eu des difficultés à manger. Et là, en fait, comme j'ai plus de diarrhée, je profite de pouvoir manger. Et puis j'ai 20 kilos à prendre aussi, hein, concrètement, vu que je fais 37 kilos, je peux en prendre 20 facile. Donc du coup je suis en régime inversé, ça c'est génial, je peux manger tout ce que je veux. C'est vraiment une super période pour ça. Et puis après ben, je fais des tests, tu vois, je commence à me dire bon ben je vais faire une après-midi en ville avec ma mère accompagnée. Bon, ça se passe pas très bien parce que j'ai une fuite, mais je rentre et puis je recommence la semaine d'après, et puis je vais faire les courses, et puis petit à petit en fait je fais de plus en plus d'activités, je sors, je vois des amis. Et donc ça, c'est le mois de juin. Et puis au mois de juillet, il y a tout qui explose. Au mois de juillet, je vais à la plage avec mon van, mon chien, des amis. On va au resto, on va en boîte, je fais du surf. Voilà, je fais tout ce qui m'a manqué parce que j'ai plus de douleur et parce que je commence à maîtriser un petit peu la poche, même si j'ai encore des fuites et qu'il faut quand même s'adapter, avoir du matériel de rechange, etc. Mais ouais, en juillet, je pète un plomb et j'y vais, quoi.
Incroyable. Ouais, ça a été quand même assez rapide depuis la sortie de l'hôpital.
Oui, en fait, finalement, ça a été rapide. C'est vrai que j'ai l'avantage aussi de. C'était une saison que j'ai adorée. Donc, et puis t'as plein de monde en vacances, t'as plein d'activités, plein de propositions. C'est très effervescent l'été. Donc, forcément, t'as plein de choses qui te donnent envie. Et donc, et même la plage, c'est vrai que c'était un défi un petit peu peut-être osé. Mais en fait, sur le coup, j'en avais rien à faire. Moi, j'avais été privée de tellement de choses pendant des années. J'avais passé quand même 3 mois de convalescence un peu toute seule, à pas pouvoir faire ce que je voulais. Que dès que j'ai pu refaire tout ce que j'aimais, bah, j'en ai profité à fond. Et finalement, je préfère être capable de faire les choses et m'adapter petit à petit que de rester enfermée et d'avoir peur de les faire sans savoir comment ça se serait passé si je le faisais, quoi.
Oui, et tu as eu bien raison. Et comment tu as abordé les regards et les, on va dire, oui, préjugés de la société justement face à la stomie?
En fait, ça, je me suis rendu compte que c'était surtout des a priori que moi j'avais. Moi, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur des réflexions, j'avais peur de comment ils allaient prendre les explications de ce que c'était, etc. Et finalement, en pratique, bon, certes, les gens te regardent un petit peu à la plage, mais t'as toujours des regards. Mais c'est plus de la curiosité. Moi, j'y lisais ça, la curiosité, vraiment de qu'est-ce que c'est, pourquoi elle a ça. Et j'ai inventé un peu le dialogue des gens, même, tu vois, quand je croisais des personnes âgées, je me disais, eux, ils doivent savoir ce que c'est quand même, parce qu'ils sont peu plus concernées dans leur univers par ça. Ils doivent se dire, mais pourquoi elle a ça alors qu'elle est jeune? Et en fait, voilà, je voyais plus des questions dans le regard des gens que des choses négatives. Et c'est pareil quand j'expliquais aux personnes que je rencontrais, avec qui j'avais l'occasion d'en parler. C'était plus de l'admiration, de me dire, ah oui, t'as traversé ça, ben maintenant faut en profiter, c'est génial, t'es toujours là. Et donc il y avait vraiment pas de choses négatives. Et mais effectivement, c'est en allant à l'encontre des gens que ça, tu t'en rends compte.
Et oui, c'est ça. Et c'est vrai que tu as fait preuve quand même d'un réel courage en allant justement à la plage, ce même été où tu étais sortie de l'hôpital. Enfin, tu étais fraîchement opérée. Tu avais eu une intervention toute récente. Donc
Oui.
oui, tu as été bien courageuse. Bravo à toi. Quels pourraient être les conseils que tu pourrais justement donner à ceux qui vivent avec une stomie?
Pour les personnes qui viennent de se faire opérer, en tout cas avec une stomie ou qui ont du mal, il y a plusieurs conseils. Il y a déjà le premier conseil, je pense, de prendre le temps de faire les choses. Je pense qu'on a tous un rythme différent et qu'il faut respecter aussi ses limites pour y aller doucement et se lancer des petits défis. Pas tous les jours, mais quand on peut. Ça peut être aller chercher le pain et puis peut-être le répéter parce que voilà, pour l'intégrer et pour voir que ben oui, ça se passe bien. Donc en fait, je peux le faire. Et puis ensuite aller au restaurant et puis ensuite aller à la plage au bout d'un moment donné. Mais en fait, c'est à force de faire les choses petit à petit et de voir qu'elles se passent bien que finalement on va pouvoir réussir à vivre sa vie avec une stomie. Donc ça, je pense que c'est important. Mais voilà, ça peut prendre 3 mois comme ça peut prendre 1 an, 2 ans. Ça, c'est chacun son rythme. Et puis, parce que la stomie, c'est aussi beaucoup une question d'image, cette crainte d'abîmer sa féminité ou sa virilité, hein, c'est la même chose. Je pense que c'est une occasion aussi de revoir justement cette définition et de se dire, ok, la féminité, la virilité, et puis la stomie, pas parce que tu as une stomie que tu vas pas être fort, pas parce que tu n'as pas une stomie que tu vas pas être sexy, que tu vas pas être désirable, que tu vas pas être beau, belle, capable. En fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire, on se résume pas à un ventre. Moi, je pensais qu'il y aurait plein de choses que je pouvais pas faire avec la stomie, et finalement, j'y arrive. Alors peut-être parfois avec des adaptations, hein, peut-être moins vite que les autres, mais il n'empêche que je reste la personne que j'étais avant. Je trouve avec un petit peu plus d'expérience et finalement qui me sont utiles, qui me servent. Donc voilà, je pense qu'on s'améliore même avec ce genre d'expérience. Et la féminité, la vérité, l'image de soi, elle évolue, mais en tout cas, la stomie ne va pas empirer les choses au niveau du regard des autres. Donc voilà, faut peut-être se faire confiance sur d'autres choses et regarder ses atouts ailleurs.
Oui, tu le partages d'ailleurs très bien au travers de tes réseaux sociaux avec ton compte Stomibusy. D'ailleurs, est-ce que pour toi, la création de Stomibusy, ça a été une étape pour justement, enfin une étape, je dirais, importante dans ton propre processus des résiliences?
Alors je pensais pas, et finalement je pense que oui, ça a participé. Je l'ai pas fait dans cette optique-là. L'idée c'était vraiment de partager quelque chose de positif, de dédramatiser, de faire sourire, de sensibiliser. Enfin voilà, c'était plus pour les autres en fait. Et puis finalement, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps qu'effectivement ça m'a fait passer du côté aidant un petit peu, alors qu'avant j'avais été aidée pendant 13 ans. Ça avait été moi la patiente, moi la malade, etc. Et là, finalement, c'est grâce à cette expérience qui est très dure et très compliquée, je peux aider des gens, je peux discuter, je peux échanger, je peux partager, je peux même rien qu'écouter. Et en fait, je suis très chanceuse, je trouve, de pouvoir faire ça. Et je pense que par rapport à mon parcours de malade, avoir fait de cette maladie quelque chose de finalement positif, qui me construit aujourd'hui et qui donne du sens à mon métier, c'est sûr. Je pense que ça participe vraiment à cette résilience, ouais.
Ouais, t'es vraiment inspirante. Bravo pour ton parcours. J'espère que les personnes qui cohabitent avec une maladie de Crohn et qui sont peut-être sur le point de se faire opérer vont vraiment avoir en tout cas cette belle source d'inspiration que tu en tout cas dégages. Quels seraient tes conseils pour justement maintenir une attitude positive et constructive malgré les défis liés justement à la maladie de Crohn et à la stomie?
C'est toujours difficile parce que ça dépend vraiment des cas. Je pense qu'en fait, le conseil, c'est justement d'accepter un petit peu ses émotions, autant négatives que positives. Parce que à force, on ne peut pas faire semblant avec la maladie. Il faut accepter des fois d'aller mal. Il faut accepter quand ça va bien de pouvoir profiter. Et puis, moi, ce qui m'a aidé, mais voilà, c'est vraiment personnel et c'est peut-être que tout le monde ne peut pas le faire, c'est d'en rire. C'est de tourner les choses en dérision. C'est pour ça que je le fais de cette manière-là, que je l'écris de cette manière-là. C'est parce que moi, l'humour, vraiment, ça a sauvé plein de journées, plein d'histoires qui n'étaient pas drôles. Parce que quand je rentrais chez moi et que je disais, oh là là, j'ai une urgence toilette, c'est horrible. Je sais pas, j'ai dû aller dans un parking souterrain, tu vois, pour me cacher, pour faire ça. Eh ben, pour moi, c'était vraiment horrible, tu vois. Je rentrais chez moi dégoûtée, dépité, triste et tout. Et puis chez moi, ben, on rigolait, on se moquait un peu de moi. Et en fait, bon, la subtilité, la différence est maintenant entre se moquer et tourner les choses en dérision. Mais moi, je le prenais avec humour aussi. Et du coup, ça transformait toutes ces histoires qui sont compliquées en quelque chose finalement qui fait marrer tout le monde et qui est beaucoup plus doux que ce que ça n'est. Donc moi, je trouve que l'humour, vraiment, ça peut aider. Maintenant, c'est pas tous les jours non plus, c'est pas par tout le monde non plus. Il y a l'art et la manière de le faire, mais ça, moi, ça m'a permis beaucoup d'avancer et de pas déprimer, quoi.
Oui, ben en tout cas, merci pour ton partage et merci pour tout ce que tu justement partages sur tes réseaux, dans tes BD. Dis-nous un petit peu comment on peut te trouver donc sur ton compte Instagram.
Alors sur mon compte Instagram, oui, Stomy Buzzy. J'ai aussi Facebook pour ceux qui sont pas très Instagram. Et puis après, vous pouvez me retrouver ben, dans mes livres, Macrame de vie, Couple parfait ou pas, qui sont dans les librairies. Et j'en sors encore en janvier. J'espère en sortir beaucoup. Donc j'espère qu'il y aura plein de moyens de me retrouver.
Bravo, bravo pour tout ce que tu crées. C'est génial, c'est magnifique. En tout cas, comme je te le répète, c'est très inspirante et merci d'avoir partagé tout ton parcours, tes conseils sur cet épisode de podcast. Je te remercie énormément et puis bah, je t'embrasse, Juliette.
Merci beaucoup et merci aussi à toi pour ce beau podcast qui, je pense, est très utile et va permettre d'aider beaucoup de monde. Bravo.
Un immense merci d'avoir partagé ce moment de résilience avec moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à suivre le podcast pour ne manquer aucune de mes futures conversations inspirantes. Et si les résilientes vous inspirent, je vous invite également à prendre un moment pour noter le podcast avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Chaque étoile et chaque partage sont des lumières qui guident ce podcast vers celles et ceux qui ont besoin d'inspiration, de positivité, que ce soit celles qui vivent avec une maladie ou celles qui accompagnent un proche dans ce parcours. Pour rester connecté, rendez-vous sur mon site internet mabellesante.com et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. C'est là que je partage des conseils, des ressources et toutes les informations sur mes accompagnements dédiés aux guerrières qui aspirent à devenir beaucoup plus fortes que leur maladie auto-immune. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles histoires de résilience.